20. Luke fit quelques parties de Slapdash et de 100 Balls sur son ordinateur, après quoi il se brossa les dents, se déshabilla en gardant son caleçon et se mit au lit. Il éteignit sa lampe avant de glisser la main sous son matelas. Il aurait pu se couper avec le couteau que Maureen avait caché là. Contrairement au couteau en plastique de la cantine, c'était un vrai couteau à découper, avec une vraie lame, si elle ne l'avait pas enveloppé dans un torchon. Il y avait autre chose qu'il ne parvint pas à identifier au toucher. Pourtant, il en avait utilisé plein avant de se retrouver ici. Une clé USB. Il se pencha en avant dans le noir et glissa les deux objets dans la poche de son pantalon. Puis vint l'attente. Des enfants couraient dans le couloir, peut-être jouaient-ils à chat, ou chahutaient-ils tout simplement. Cela se produisait tous les soirs maintenant que les pensionnaires étaient plus nombreux. Il y eut des cris et des rires, accompagnés de « chut », suivis de nouveaux éclats de rire. Les enfants se défoulaient, ils évacuaient la peur. Un de ceux qui braillait le plus fort était Stevie Whipple, et Luke en déduisit que Stevie avait bu du vin ou de la citronnade alcoolisée. Aucun adulte ne venait réclamer le silence. Les intendants ne cherchaient pas à imposer le règlement en matière de limitation des nuisances sonores et de couvre-feu. Enfin, le calme revint dans l'aile de Luke. Il n'entendait plus que les battements réguliers de son cœur et les rouages de son esprit, alors qu'il passait en revue une dernière fois la liste de Maureen. Une fois dehors, retourne vers le trampoline, se rappela-t-il. Serre-toi du couteau s'il le faut. Ensuite, tourne légèrement vers la droite. S'il réussissait à sortir. Il constata avec soulagement qu'il était déterminé à 80% et effrayé à seulement 20%. C'était encore trop, mais naturel sans doute, se disait-il. L'idée qui alimentait sa détermination, la certitude, était simple et évidente. C'était sa seule et unique chance. Il n'en aurait pas d'autre. Et il était bien décidé à en tirer le meilleur profit. Quand il estima que le silence régnait dans le couloir depuis une demi-heure, Luke se leva et alla chercher le seau en plastique posé sur le téléviseur. Il avait inventé une histoire destinée à d'éventuels observateurs, au cas où quelqu'un regarderait les écrans de contrôle à cette heure-ci, au lieu de faire des réussites dans une salle de surveillance située quelque part au sous-sol. L'histoire d'un garçon qui s'est couché tôt et qui se réveille pour une raison quelconque, une envie de faire pipi peut-être, ou à cause d'un cauchemar. Quoi qu'il en soit, encore à moitié endormi, il sort dans le couloir en caleçon. Les caméras protégées par leur globe poussiéreux le suivent tandis qu'il se rend au distributeur de glaçons. Et quand il revient avec son seau rempli, l'observateur en déduit qu'il n'est pas assez réveillé pour s'apercevoir qu'il tient toujours la pelle dans la main. Demain matin, il la trouvera sur son bureau ou sur le bord du lavabo et se demandera comment elle est arrivée là. De retour dans sa chambre, Luke versa des glaçons dans un verre, le remplit au robinet du lavabo et en but la moitié. C'était bon. Il avait la bouche et la gorge très sèches. Il laissa la pelle sur le réservoir des toilettes et retourna se coucher. Il s'agita dans son lit, en marmonnant. Dans l'histoire qu'il interprétait, le garçon se languissait peut-être de son tout petit ami. Voilà pourquoi peut-être il n'arrivait pas à s'endormir. Peut-être que personne ne l'espionnait, mais peut-être que si, et il devait donner le change. Finalement, il ralluma la lumière et se rhabilla. Il se rendit dans la salle de bain où il n'y avait probablement pas de caméra et glissa la pelle dans son pantalon, devant, en rabattant par-dessus son t-shirt des Twins. S'il y avait une caméra et si quelqu'un se trouvait devant les écrans, il était d'ores et déjà fichu. Mais il n'avait pas d'autre choix que de poursuivre son histoire jusqu'au chapitre suivant. Il ressortit dans le couloir et marcha jusqu'à l'espace détente. Stevie Whipple et un autre garçon, un des nouveaux, étaient là, allongés par terre. Ils dormaient à poing fermé. Une demi-douzaine de mignonnettes de whisky vide étaient éparpillées autour d'eux. Ces petites bouteilles représentaient une grosse quantité de jetons. Stevie et son nouvel ami allaient se réveiller avec la gueule de bois et les poches vides. Luke enjamba Stevie pour entrer à la cantine. Éclairé uniquement par les néons du comptoir à salade, cet endroit avait quelque chose de lugubre et d'un peu effrayant. Il prit une pomme dans la coupe de fruits, toujours pleine, et mordit dedans alors qu'il retournait dans la salle de repos, en espérant que personne ne l'observait, ou que cette personne comprenait le numéro qu'il était en train d'interpréter. Le garçon s'est réveillé, Il est allé chercher des glaçons au distributeur et il a bu un bon verre d'eau fraîche. Mais maintenant, il n'arrive plus à dormir, alors il va chercher quelque chose à grignoter à la cantine. Puis il se dit, pourquoi ne pas aller prendre l'air sur le terrain de jeu? Il ne serait pas le premier. Kalisha lui avait raconté qu'Iris et elle étaient sorties plusieurs fois la nuit pour contempler les étoiles, incroyablement brillantes ici, en raison de la clarté du ciel. Luc espérait seulement que personne n'avait eu l'idée de sortir ce soir-là pour profiter du spectacle ou se bégoter. Non, il n'y avait personne. Et en l'absence de lune, le terrain de jeu se trouvait plongé dans l'obscurité. Les divers équipements n'étaient que des ombres anguleuses. Quand ils n'étaient pas accompagnés d'une ou deux personnes, les plus petits avaient peur du noir. Les plus grands également, mais la plupart refusaient de l'admettre. Luc traversa le terrain de jeu en flânant, attendant de voir surgir un des intendants de l'équipe de nuit qu'il connaissait moins, qui lui demanderait ce qu'il faisait ici, avec une pelle à glace sous son t-shirt. Il n'envisageait tout de même pas de s'enfuir, si ? Ce serait une idée complètement dingue. « Complètement dingue !» murmura Luc en s'asseyant par terre, le dos contre le grillage. « Oui, c'est exactement ça. Je suis complètement dingue. » Il attendit de voir si quelqu'un venait. Non, personne. Il entendait uniquement les grillons et les ululements d'une chouette. Il y avait une caméra, mais y avait-il quelqu'un derrière ? Il savait que la surveillance laissait à désirer. Il n'allait pas tarder à découvrir dans quelle mesure. Il souleva son t-shirt pour sortir la pelle. Quand il avait visualisé cette scène, il s'imaginait creusant la terre dans son dos avec sa main droite, la main gauche prenant éventuellement le relais si son bras fatiguait. En réalité, ça ne fonctionnait pas aussi bien. La pelle raclait contre le bas du grillage, produisant un bruit assourdissant dans le silence de la nuit, et il ne voyait pas s'il progressait. « C'est de la folie, » se dit-il. Faisant fi de la caméra, Luc s'agenouilla et se mit à creuser sous le grillage, expulsant la terre et les cailloux à droite et à gauche. Le temps parut se dilater. Il eut l'impression que 2 heures s'écoulaient. Quelqu'un dans la salle de surveillance qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il se représentait très nettement, commençait-il à se demander pourquoi ce gamin insomniaque n'était pas revenu du terrain de jeu. Allait-il envoyer un ou une collègue pour voir ce qui se passait? Dis donc, Lucky. Supposons que la caméra soit équipée d'un système de vision nocturne, hein ? Il continua à creuser. La sueur couvrait son visage d'une pellicule grasse qui attirait les insectes de l'équipe de nuit. Il creusa encore. Il sentait l'odeur de ses aisselles. Son cœur galopait. Soudain, il perçut une présence dans son dos, mais quand il regarda par-dessus son épaule, il ne vit que le portique du panier de basket, dressé sur la toile de fond du ciel étoilé. Il y avait maintenant une tranchée sous le grillage. Pas très profonde, mais il était déjà maigre en arrivant à l'institut et il avait perdu quelques kilos depuis. Alors, peut-être. Hélas, quand il s'allongea pour tenter de se glisser dessous, ça ne passait pas. Loin s'en fallait. Retourne à l'intérieur, se dit-il. Retourne te coucher avant qu'il te découvre et t'inflige un horrible châtiment pour avoir tenté de fuir. Mais ce n'était pas une option, c'était de la lâcheté. Il lui réservait un sort horrible de toute façon. Les films, les migraines, les lumières de Stasi, et pour finir, le bourdonnement. Alors il creusa encore, essoufflé maintenant, en se balançant d'avant en arrière, de droite à gauche. L'espace entre le bas du grillage et le sol augmentait lentement. Quelle bêtise de leur part de ne pas avoir bétonné le sol autour du grillage. Quelle bêtise de ne pas y avoir fait passer un courant électrique. Mais ils ne l'avaient pas fait, et c'était tant mieux. Luc s'allongea de nouveau sur le sol pour essayer de se faufiler, et de nouveau le grillage l'empêcha de passer. Mais il approchait du but. Alors il se remit à genoux et recommença à creuser, plus vite. Un craquement sec se produisit quand le manche de la pelle à glace finit par céder. Il lança la poignée et continua à creuser, même si le bord de la pelle lui rentrait dans les paumes. Quand il s'arrêta pour examiner ses mains, il constata qu'elles saignaient. « Cette fois, ça doit être bon, se dit-il. Il le faut. » Presque, mais pas tout à fait. C'était reparti, avec la pelle. Droite et gauche, bâbord et tribord, le sang coulait entre ses doigts, la sueur plaquait ses cheveux sur son front, des moustiques chantaient à ses oreilles. Il reposa la pelle, s'allongea à plat ventre et essaya encore une fois de passer sous le grillage. Les pointes saillantes agrippèrent son t-shirt, puis mordirent sa peau, faisant couler le sang dans son dos. Il continua à ramper malgré tout. À mi-chemin, il resta coincé. Le nez dans le sol, Il voyait la terre se soulever sous forme de mini-tourbillons devant ses narines, à chaque allaitement. Il fallait qu'il ressorte et qu'il continue à creuser, juste un peu. Mais quand il voulut revenir sur le terrain de jeu, il s'aperçut qu'il ne pouvait plus reculer non plus. Il était pris au piège. Il serait encore coincé là, sous ce putain de grillage, comme un lapin pris au collet, lorsque le soleil se lèverait le lendemain matin. Les points réapparurent, rouges, verts et violets. Ils émergeaient du trou dans le sol, à quelques centimètres seulement de ses yeux. Ils fonçaient sur lui, se scindaient, puis se rassemblaient pour tournoyer comme des lumières stroboscopiques. La claustrophobie lui broyait le cœur et le crâne. Ses mains palpitaient et hurlaient. Il déploya les bras, planta ses doigts dans la terre et tira de toutes ses forces. Espace d'un instant, les points envahirent non seulement son champ de vision, mais la totalité de son cerveau. Il se perdit dans leur éclat. Puis le bas du grillage parut se soulever légèrement. C'était peut-être un effet de son imagination, mais il ne le pensait pas. Il l'entendit craquer. Grâce aux injections et aux caissons, je suis devenu un técapose maintenant, se dit-il. Comme Georges ? Mais cela n'avait aucune importance, se dit-il. Ce qui comptait, c'était qu'il pouvait bouger de nouveau. Les points s'atténuèrent. Si le bas du grillage s'était réellement soulevé, il était retombé. Les griffes de métal lacérèrent ses omoplates, ses fesses et ses cuisses. Pendant un moment d'intense souffrance, il se retrouva immobilisé une seconde fois. Le grillage le retenait avidement, il refusait de le laisser partir. Mais quand il tourna la tête sur le côté et appuya la joue sur le sol caillouteux, il avisa un buisson. À portée de main. Il tendit le bras, trop court. Il essaya encore en étirant ses articulations au maximum et parvint à la gripper. Il tira. Le buisson commença à se déraciner, mais avant qu'il s'arrache du sol, Luc put bouger de nouveau, en donnant des coups de bassin et en poussant avec les pieds. Une dent métallique lui adressa un dernier baiser d'adieu sous la forme d'une éraflure brûlante sur le mollet, juste avant qu'il parvienne à force de gigoter, à se glisser de l'autre côté. Il était passé. Luc se redressa à genoux en chancelant et jeta un regard affolé derrière lui. Certain de voir toutes les lumières du bâtiment s'allumer, partout, dans les couloirs, à la cantine, et des silhouettes se précipiter, celles des intendants brandissant leurs apsticks réglés sur la puissance maximale. Mais il ne vit personne. Il se releva et se mit à courir à l'aveuglette, oubliant dans sa panique la prochaine étape vitale, l'orientation. Sans cette douleur soudaine, fulgurante, qui enflamma son talon gauche quand il marcha sur une pierre tranchante, il aurait foncé tête baissée dans les bois, et se serait perdu avant que la raison reprenne le dessus. Il s'aperçut qu'il avait perdu une basket au moment de l'ultime plongeon vers la liberté. Il retourna vers le grillage, plié en deux, pour la récupérer et l'enfiler. Si les éraflures dans son dos et sur ses fesses le piquaient simplement, l'entaille au mollet plus profonde lui faisait l'effet d'une brûlure au fer rouge. Malgré cela, son rythme cardiaque ralentit et ses pensées s'éclaircirent. « Une fois dehors, reviens vers le trampoline. » lui avait dit Avery, relayant l'étape numéro 2 de Maureen. « Tourne-lui le dos, puis fais un pas vers la droite. C'est ta direction. Tu n'auras que 2 kilomètres à parcourir environ, et tu n'es pas obligé de suivre une ligne parfaitement droite. L'objectif que tu vises est très gros, mais essaie quand même de faire de ton mieux. » Plus tard ce soir-là, dans son lit, Avery avait suggéré que Luc pourrait peut-être se guider grâce aux étoiles. Personnellement, il n'y connaissait rien. Bon, il fallait y aller maintenant. Avant cela, cependant, il avait encore une chose à faire. Palpant son oreille droite, il sentit le petit cercle qui y était incrusté. Il se souvint d'avoir entendu quelqu'un, Iris peut-être, ou Hélène, dire que la pose de l'implant ne lui avait pas fait mal, car elle avait déjà les oreilles percées. Mais les boucles d'oreilles s'enlevaient facilement, Luc avait vu sa mère le faire. Celle-ci était installée à demeure. « Mon Dieu, je vous en supplie, ne m'obligez pas à utiliser le couteau. » Luc s'arma de courage. Il introduisit ses ongles sous le bord supérieur arrondi de la puce et tira. Son lobe s'étira, ça faisait mal, très mal même, sans résultat. Il lâcha son oreille, prit 2 grandes inspirations, ravivant les souvenirs de son immersion dans le caisson, et tira de nouveau, plus fort. La douleur redoubla sans qu'il parvienne à arracher la puce. Le temps passait, l'aile résidentielle du bâtiment, étrange sous cet angle inhabituel, était toujours plongé dans l'obscurité et le silence. Mais pour combien de temps encore? Il pourrait essayer de tirer de nouveau, mais cela ne ferait que retarder l'inévitable. Maureen le savait. C'était pourquoi elle lui avait donné ce couteau à découper. Il le sortit de sa poche, en prenant soin de ne pas faire tomber la clé USB, et dans la faible lumière des étoiles, le leva devant ses yeux. Avec son pouce, il testa le tranchant de la lame, puis de la main gauche, il tira sur le lobe de son oreille, au maximum. Là, il hésita, prenant le temps d'assimiler cette réalité. Il était du bon côté du grillage. La chouette, à moitié endormie, ulula de nouveau. Des lucioles mouchetaient l'obscurité, et malgré l'extrême tension de cet instant, il fut sensible à la beauté du spectacle. « Dépêche-toi, » se dit-il, « comme si tu coupais un morceau de steak. Et même si ça fait un mal de chien, ne crie pas. Tu ne dois pas crier. » Luc appuya la lame contre le haut de son lobe, à l'extérieur, et demeura dans cette position pendant quelques secondes, qui ressemblèrent à plusieurs éternités. Puis il laissa retomber sa main. « Je peux pas. Il le faut. Je peux pas. Oh Seigneur, je dois le faire. » De nouveau, il appuya la lame contre la chair tendre, sans protection, et l'abattit d'un coup sec, sans réfléchir, juste le temps de prier pour que le couteau soit suffisamment aiguisé pour accomplir le travail en une seule fois. Le couteau était aiguisé, oui, mais le courage de Luc faiblit un peu au dernier moment. Au lieu d'être tranché net, le lobe pendait maintenant, retenu par un lambeau de chair et de cartilage. Tout d'abord, il ne sentit aucune douleur, uniquement le sang chaud qui ruisselait dans son cou. Puis elle surgit. C'était comme si une guêpe de la taille d'une bouteille de bière l'avait piqué pour lui injecter son poison. Luc avala une longue inspiration sifflante, saisit le lobe pendant entre son pouce et son index, et tira, comme on ôte la peau d'une cuisse de poulet. Il se pencha au-dessus de sa main, car s'il savait qu'il avait réussi à arracher cette saloperie de puce, il avait besoin de la voir, pour être sûr. Elle était bien là. Après avoir vérifié qu'il se trouvait à la hauteur du trampoline, il lui tourna le dos, puis fit un pas, ni trop grand ni trop petit, espérait-il, vers la droite. Devant lui se dressait la masse sombre de la partie nord de la forêt du Maine, sur des kilomètres et des kilomètres. Levant les yeux vers le ciel, il aperçut la grande ourse. « Suis cette direction, » se dit-il. « C'est tout ce que tu as à faire. » Mais ça ne sera pas tout droit jusqu'au lever du jour. Seulement pendant 2 kilomètres environ, avait dit Maureen à Avery. Ensuite, il faudra passer à l'étape suivante. Ignore la douleur dans le haut du dos, la douleur plus intense au mollet, et la pire de toutes, la douleur de ton oreille à la Van Gogh. Ignore les tremblements de tes bras et de tes jambes. Continue à avancer. Mais d'abord, il leva son poing droit et balança par-dessus le grillage le petit morceau de chair qui renfermait encore la puce. Il entendit, ou crut entendre, le léger bruit que produisit le lobe en retombant sur le bitume qui entourait la pathétique imitation d'un terrain de basket. Qu'il le garde en souvenir. Et il se mit à marcher, les yeux fixés sur cette seule constellation.